Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi.
La lecture du prophète Isaïe, on a entendu, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Et puis l'ajoute, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les yeux des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Dans l'Ancien Testament, on imaginait que Dieu pouvait se venger, pouvait tuer, pouvait faire des guerres. S'il y avait un incident grave, c'était Dieu. S'il y a un tsunami, c'est Dieu. La vengeance de Dieu, la voici. Quand les gens sont méchants, n'accueillent pas la parole, la manière de Dieu de se venger, c'est de pas de passer par la force, c'est d'aimer à l'infini. Et sa victoire, elle n'est pas contre les hommes, sa vengeance, elle est contre le mal. S'il se venge, s'il agit, c'est contre le mal, pas contre personne. En tout cas, dans l'Évangile, on voit la réalisation de la prophétie d'Isaïe. Les sourds entendent, les muets parlent. Et nous pouvons accueillir pour chacun de nous cette phrase forte, Ephata, ouvre-toi. Nous pouvons nous identifier d'abord aux sourds de l'Évangile. Il nous arrive d'être sourds à l'appel des autres. Nous ne les entendons pas, nous ne les voyons pas. Ils ont besoin de nous, mais nous ne bougeons pas. Il nous arrive d'être sourds à la parole de Jésus dans nos cœurs. Il nous parle dans notre cœur, nous ne voulons pas entendre. Un bon moyen d'être sourd, d'ailleurs, c'est de fermer les oreilles et de ne pas lire la parole de Dieu. Inversement, quand on fait son cahier de parole de vie chaque jour, on a des chances de l'entendre. Presque des fois, on l'entend, mais on dit quand même Jésus. C'est très beau, mais c'est un peu exagéré. Il nous arrive aussi une autre surdité, d'être sourd à l'affection des autres. Combien de personnes sont aimées par d'autres et ne l'entendent pas, pensent qu'ils ne sont pas aimés? Combien de personnes souffrent sans dépression parce qu'ils pensent que personne ne les aime? Des fois, c'est un peu vrai, mais souvent, c'est dans leur cœur. Ils n'entendent pas que leur maman, leur papa, leur mari, leur femme les aiment, leurs voisins. Il nous arrive aussi d'être sourds à l'affection de Jésus. Nous faisons une image de Dieu qui ne correspond pas du tout. On parle de la vengeance de Dieu ou de je ne sais pas quoi. On n'entend pas. On n'entend pas le silence de Dieu sur la croix qui nous dit tout son amour. Il nous arrive aussi d'être muets. Parfois, on est muet pour exprimer notre souffrance. On a mal, mais on a tellement mal qu'on se ferme sur soi. On ne dit rien à personne, on porte tout seul, et on s'effondre. D'autres fois, on est muet pour exprimer notre affection. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais les femmes disent que souvent, leurs maris sont très pudiques. Ils leur disent « je t'aime ». Qu'est-ce que ça transforme la vie quand on fait attention, pas seulement en parole, mais par des gestes, par une attention, à manifester à l'autre « je t'aime ». Ce n'est pas superflu. Ah, elle le sait, non? Comment ne pas être muet pour dire notre affection les uns aux autres? Il nous arrive d'être muet quand l'autre a besoin d'une parole qui relève. Tu es capable, vas-y. On va laisser l'autre de côté. Il nous arrive aussi d'être muet pour protester. Il y a des injustices autour de nous, il y a des injustices au travail. On voit monter les communautarismes, le repli sur soi, et nous restons muets. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Jésus nous redit à chacun, Ephata, ouvre-toi. Il y a peut-être d'autres moments où le miracle que Jésus pourrait faire, ce n'est pas de toucher la bouche pour que la personne retrouve la parole, mais ce serait de la lui fermer. Combien de guérisons qui naissent du commérage ? Le pape François revient toujours sur ces paroles. Alors les commérages, ils ont d'abord une source. C'est notre regard et notre cœur. Nous regardons les autres en cherchant tout leur travers, toutes leurs limites. Et en plus, en leur en inventant plus qu'ils n'en ont. Pourtant, on a chacun pas mal de limites, c'est pas la peine d'en inventer d'autres. Et puis non seulement on les voit, mais on se met à parler de la manière qu'ils détruisent. Que de familles, que de groupes paroissiaux se détruisent à cause des commérages. Il est normal que dans tel groupe, telle ou telle chorale, il y ait des moments de tension. Comment demander l'Esprit Saint pour savoir si c'est la parole juste? Alors des fois on dit, ah ben il y a si ça qui ne va pas, je change de groupe. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la conversion. Comment demander à l'Esprit Saint la force de tenir, la force d'aimer l'autre? Si je dis, tu sais, quand tu fais ça, ça me fait mal, ou ça fait une telle chose. Mais aussi, quand je vois qu'il y a une limite qui ne changera pas, comment faire pour que la limite de l'autre ne soit pas l'occasion de l'éloigner, mais de l'aimer encore plus? Quand Dieu voit la limite des hommes qui n'entendent pas sa voix d'amour, qui ne veulent pas de lui, il envoie d'autres prophètes, ils ne se retirent pas. Les hommes tuent les prophètes, Jésus, Dieu vient lui-même. Notre péché, nos limites, ce n'est pas l'occasion pour lui de se retirer, mais de nous aimer encore plus. Vous avez noté que, avant de dire « Ephata, ouvre-toi », il fait quoi, Jésus ?
Comment ? Il lève les yeux.
Et vous faites « Oui, il lève les yeux, et puis ?»
Il prie le Père.
Comment ? Après, il va le faire, mais avant, il soupira. Il soupira. Et c'est pas encore m'embête. Il soupira, il envoie son souffle d'esprit. Hein? Le soupir dans ça là, c'est un souffle d'esprit qui répand sur cet homme, sur ce son muet. Alors quand quelqu'un dit, il l'emmène à l'écart. De fait, c'est un détail que j'aime beaucoup. Hein? Jésus l'emmène à l'écart. Il touche ses oreilles, après il fait quoi? Vous avez repéré les enfants, qu'est-ce que fait Jésus pour guérir la... Il fait quoi? Voilà, il met de la salive sur sa langue. Hein, je ne sais pas ce que diraient les commissions des hommes. Mais Jésus, il se fait tout proche. Hein, il nous touche complètement. Eh bien, au début de cette année, et c'est ce qu'on est en train de vivre à l'instant, on est en train de laisser Jésus nous emmener à l'écart. On est en train de demander à Jésus, touche mes oreilles, touche ma bouche, touche mon cœur, touche-moi tout entier. Et chaque dimanche, quand on vient, on accepte d'être emmené à l'écart pour que Jésus touche nos oreilles, touche nos yeux, touche ma bouche, touche notre cœur. Il me semble qu'on pourrait s'identifier non seulement aux sourds-muets, mais aux gens, même on pourrait d'abord s'identifier à Jésus. On est nous aussi appelés à toucher les oreilles de l'autre, toucher son cœur, toucher ses yeux, par notre manière d'être, de l'aimer. Et on peut s'identifier à ceux qui amènent le sourd-muet à Jésus. Imaginez, Jésus passe. Mais le gars, il sourd, il n'a pas entendu. Il y a eu des annonces à la fin de la messe, il n'a pas entendu que Jésus allait passer. Heureusement, il y a des amis qui l'amènent. Encore plus au niveau du moment de la rentrée, nous sommes appelés chacun à nous demander qui sont les gens autour de moi qui attendent que je les amène à Jésus. Vous écouterez bien les annonces. Vous lirez bien la feuille. Mais c'est vraiment le moment de se demander qui attend qu'on l'amène à Jésus. Alors, il y a des tas de manières, c'est déjà à nouveau dans l'immeuble, pas croyant, ou d'une autre religion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il attend que des gens le salut. Lui invite à faire un apéritif. C'est une manière d'amener à Jésus, d'amener à la joie. Et les enfants, quand sont les inscriptions au catéchisme ?
Comment ?
Samedi prochain. Samedi prochain, 10h, 16h. Alors vous avez une mission très importante. Parlez à vos copains. Quand vous repérez qu'il y a des chances qu'ils soient chrétiens, posez-lui la question doucement. Moi je vais au cathé, tu irais pas toi? Tu viendrais avec moi? Les inscriptions, c'est ça. Donc c'est vrai pour l'éveil à la foi, c'est vrai pour toute la catéchisme en primaire. Vous regardez les parents aussi, comme les enfants de cet âge-là, vous avez des amis, les parents. C'est le moment de leur parler. Vous regarderez toutes les autres invitations. Vous écouterez bien les jeunes de Juvenus aussi à la fin de la messe, qui vous donnent un rendez-vous pour tous ceux qui ont 15 ans et plus. Il y a de la place pour tous dans la paroisse. Là, c'est le moment, il y a des chorales. On peut avoir 45 ans, 50 ans, 90 ans, et vouloir être baptisé, et vouloir recevoir la confirmation. On peut être en ménage depuis 30 ans, et entendre Jésus qui nous dit, est-ce que tu acceptes que l'amour que vous avez l'un pour l'autre, d'abord tu le nourrisses à mon amour à moi, que tu reçois la force du sacrement. Est-ce que tu acceptes que cet amour, ta vie de famille avec ses filles, elles deviennent signes du Dieu Trinité, du Dieu d'amour ici. Ça vaut le coup de s'interpeller mutuellement au mariage. Jean n'est pas devenu diacre parce qu'il a dit je veux être diacre. Il est devenu diacre parce que l'Église a dit Jean et Geneviève, acceptez-vous de réfléchir à ce service. Et bien de la même façon, il nous faut appeler les gens au mariage, les appeler au baptême. C'est le moment aussi où on redémarre les maisons d'évangile. Les maisons d'évangile, c'est d'abord un lieu pour nous, pour se nourrir de la parole de Dieu, pour entendre son appel. On est en train de lire les actes des apôtres, on a commencé l'an dernier, on va continuer. Ce mois-ci, on est invité à regarder Philippe. Philippe, c'est un gars. Il était chargé normalement du service des tables avec les veuves, et on le voit en train d'annoncer la parole. D'abord en Samarie. Les gens ne connaissaient pas trop. Et puis après, sur la route de Gaza, avec un étranger, il baptise. Et donc je vous invite toutes les maisons d'évangile qui ont déjà démarré à entrer dans ce texte. Et à vous demander, mais qui faudrait-il inviter à notre maison d'évangile? Et puis quand la maison grandit, il faut la dédoubler. Quand on est 25, ça devient impossible de parler, de s'écouter. Et ceux qui n'ont pas encore démarré les maisons d'évangile, lancez-vous. On reprend les dimanches d'août on la parole, franchement sur la fin du mois. Je vous rappelle qu'une fois par mois, on se retrouve ici à 9h, tous ceux qui veulent, si possible, et on partage ce texte des apôtres qui a été médité dans chaque maison d'évangile. Puis on célèbre à 10h30 ensemble. Bon, je redis, hein, regardez bien autour de vous qui sont les maisons d'arrivée. Quand Jésus dit « Ephata, ouvre-toi », il le dit à cet homme individuel, mais à nous tous, ensemble, en communauté, il nous dit « Communauté Saint-Jean 23, Ephata, ouvre-toi ».